RCF.
Bonjour amis auditeurs, auditrices de la vie militaire à Bourges et dans le Berry avec notre émission Le Berry se raconte et Agora Défense. Aujourd'hui, nous recevons un habitué en la personne de Michel Delagarde, vice-président d'Agora Défense. Bonjour Michel.
Bonjour Bernard.
Vous êtes incontestablement le spécialiste des États-Unis dans l'histoire de la Première Guerre mondiale. 1917-2017, il y a 100 ans. 1917, année clé du XXe siècle, dit-on. Mais surtout, cette superbe exposition que vous avez faite, Michel, la bannière étoilée flotte au cœur de la France. Thème de cette exposition, réalisée par vous, avec la labellisation des missions en charge des communications du centenaire en France et aux États-Unis. Michel, merci encore d'avoir accepté mon invitation pour deux émissions. La première sera consacrée aux raisons qui expliquent l'intervention des États-Unis et l'arrivée des forces américaines sur notre territoire. La seconde concernera directement l'exposition « Pourquoi la bannière étoilée flotte au cœur de la France », à savoir notre région. Michel, entrons dans le vif du sujet. Pouvez-vous me donner les raisons profondes de l'entrée en guerre des États-Unis et surtout, pourquoi avoir attendu 1917 ?
Eh bien, tout d'abord, il faut bien voir la personnalité du président Wilson. Le président Wilson était un pacifiste et était un idéaliste. D'autre part, il se présentait à la réélection en novembre 1916. Donc, il avait pris comme slogan « I keep you out of the war ». Je vous ai épargné la guerre. Ça, c'est une des raisons. L'autre raison, c'est que pendant très longtemps, l'opinion américaine n'a pas été favorable à la guerre. Il faut savoir que le peuple américain était constitué en majorité par des immigrés venant d'Allemagne, venant de France, venant d'Irlande, et je dis ça parce qu'ils étaient farouchement anti-anglais et qu'ils ne se voyaient pas alliés à combattre à côté des Anglais. Un exemple célèbre, le général Pershing, était un descendant de Frédéric Feuerstein, alsacien émigré. Le nom s'étant transformé à travers le temps.
Si je puis me permettre, est-il possible de me dérouler la chronologie des événements à partir du 2 avril 1917, qui est justement le message au Congrès américain du président Wilson ? Parce qu'ensuite, les événements vont s'accélérer.
Les événements vont s'accélérer. Lors de son message du 2 avril, le président Wilson a demandé aux deux chambres réunies en Congrès de reconnaître l'état de guerre avec l'Allemagne. La formulation est très précise. Ce n'est pas de déclarer la guerre à l'Allemagne, c'est de reconnaître l'état de guerre. Dans la Constitution américaine, le Congrès ne vote pas, les chambres votent séparément. Le Sénat a voté le 4 avril, répondant favorablement à la demande du président Wilson. Et le 6 avril à 13h18, les résultats de la Chambre des représentants sont tombés.
Très bien.
Favorables, les États-Unis d'Amérique étaient en guerre. À cette nouvelle, le Kaiser Guillaume II a dit « Wilson veut la guerre, tant pis pour lui ». La suite a prouvé qu'il avait tort.
Est-ce qu'il y a uniquement des raisons idéologiques dans cette intervention des États-Unis ou est-ce qu'il y a aussi des raisons économiques, financières ? Est-ce que le business joue un rôle, Michel ?
Vieille question que tu m'as posée déjà un certain nombre de fois. Alors, officiellement, le business n'a pas joué de rôle. Une commission a été créée après la guerre pour examiner s'il y a eu un rôle. La commission a répondu négativement. On sait ce que vaut les travaux d'une commission. Il y a eu évidemment une influence économique, ne serait-ce que parce que les prêts américains à l'entente, c'est-à-dire France, Angleterre, Italie, globalement, étaient 10 fois plus importants que ceux faits aux alliés à la Triple Alliance. Et puis, d'autre part, et c'est là surtout est le nœud de l'affaire, les Allemands ayant déclaré la guerre totale, la guerre sous-marine totale, et décidé de couler tout bateau neutre venant aux abords de la France, de l'Angleterre, c'était l'économie américaine du moment qui était touchée. Mais c'était aussi, et fondamentalement pour le président Wilson, la fin de la liberté sur les mers, et ça, notre idéaliste Wilson ne l'a pas admis.
Très bien. Alors, militairement, justement, en 1917, en avril 1917, est-ce que l'armée des États-Unis est prête à intervenir immédiatement pour soulager ses alliés européens qui subissent le conflit depuis 3 ans?
Absolument pas. Absolument pas. L'armée américaine, à l'époque, c'est 125 000 hommes, plus la garde nationale, ça fait un peu plus, mais ça ne fait pas une force d'intervention. Donc, il a fallu, en très peu de temps, mobiliser. Et le 18 mai 1917, le Selective Service Act permet cette mobilisation. C'est une affiche bien connue. « I want you », l'oncle Sam pointant son doigt vers tous les jeunes Américains.
Il s'engage ou est-ce que c'est l'État américain qui décide d'un service national? Alors, ça, c'est une question que je vous pose.
Alors, au départ, ils se sont volontairement inscrits, mais comme il n'y en avait pas assez de volontaires, eh bien, ça a été la conscription.
Ah, ça a été la conscription?
La conscription.
Oui, parce qu'on oublie souvent de le dire, ça. Parce que vu le nombre d'Américains qu'on va avoir sur le territoire national, territoire français, entre autres, ce qui se comprend beaucoup mieux. Alors, une autre question. Y a-t-il, avant 1917, avant l'arrivée massive des États-Unis dans nos conflits, une présence d'Américains dans les combats en France?
Oui, il y a une présence américaine. Dès la déclaration de guerre, un certain nombre de jeunes Américains résidant en France ou venant des États-Unis, à leurs frais d'ailleurs, traversant l'Atlantique, vont rejoindre le régiment de marche de la Légion étrangère. Alors, parmi ces Américains, j'en citerai un qui mourra au front, Alan Seeger, un poète américain, qui peu de temps avant sa mort avait écrit un poème au titre prémonitoire « I have a rendezvous with death ». Outre cet Américain célèbre aux États-Unis, il y a eu essentiellement, en gros, 900 Américains qui ont combattu. Un certain nombre étaient pilotes aux États-Unis, ont essayé de rejoindre les forces de l'aviation française et ils ont formé un peu plus tard l'escadrille N-124, appelée escadrille Lafayette, importante au point de vue psychologique sur le public américain. Ils ont beaucoup fait pour propager l'idée de l'atrocité de cette guerre dans le public américain et ils ont certainement contribué pour leur part au revirement de la population américaine vis-à-vis de l'entrée en guerre. Un deuxième élément important, c'est tous les services ambulanciers. Dès 1914, Piat Andrew crée l'Ambulance Service et l'hôpital américain de Neuilly. Donc il brancarde, il ramène à Neuilly, au collège de Juilly et dans un certain nombre d'endroits, il ramène des blessés et les soigne.
Merci Michel pour ces explications passionnantes sur le déroulement de l'entrée en guerre des États-Unis dans cette Première Guerre mondiale. Notre prochaine émission sera consacrée à l'installation de la baleinière étoilée sur notre territoire, plus particulièrement dans notre région, cœur de France. Merci à vous, auditeurs, auditrices, pour votre fidélité. Bonne journée, bonne semaine. à vous, à l'écoute de RCF en Berry.